Le conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sport en Sarthe, une émission en partenariat avec le conseil départemental de la Sarthe. Alors au programme aujourd'hui, le sport peut-il devenir un moyen de lutter contre le harcèlement scolaire? C'est en tout cas l'hypothèse de notre invité Jean-Charles Rioton qui organise un grand défi pour 2025. On vous en dit plus dans quelques instants. Et puis ensuite, rencontre avec Elias Blay qui a décidé de rompre subitement sa carrière de kayakiste professionnel. Le jeune champion était promis à une brillante carrière dans le sport de haut niveau. Alors quelles sont les raisons qui l'ont poussé à cette décision et qu'est-ce que son expérience nous dit de notre rapport au sport? Ce sera dans quelques minutes, mais avant nous sommes avec Jean-Charles Rioton.
Radio Alpa, l'alternative.
Vous les entendez tous les jours à la radio et à la télévision, les cas de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement. Alors comment lutter contre la division des jeunes? Eh bien le sport pourrait être une piste. On en parle avec notre invité, bonjour Jean-Charles Rioton.
Bonjour.
Vous êtes animateur sportif chez Annie Bray Tennis Intercommunal et vous portez régulièrement des projets, des événements sportifs pour promouvoir l'activité sportive, notamment chez les jeunes. Cette année, vous vous êtes lancé dans un défi de taille, un défi sur le temps long, réaliser 800 000 échanges de balles contre le harcèlement scolaire. Alors à quoi il correspond en fait ce chiffre 800 000 ?
Eh ben en fait, effectivement, on a vu que il y avait plus de 800 000 enfants qui étaient victimes de harcèlement scolaire en France en 2024. Du coup, on avait organisé un projet solidaire l'an passé sur le sport et le handicap et on a voulu cette année essayer de faire un nouveau projet éducatif en lien avec cette thématique du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement qui sont des véritables fléaux en France aujourd'hui. Et donc l'objectif, voilà, comme on est une association sportive et un club de tennis, c'est de réussir à faire 800 000 échanges de balles en soutien aux 800 000 enfants victimes de harcèlement scolaire en France en 2024.
Et alors pourquoi c'est une lutte qui vous tient à cœur particulièrement ?
Eh ben parce que déjà premièrement parce que c'est quelque chose que j'ai pu connaître il y a quelque temps quand j'étais plus jeune aussi. Donc je sais un petit peu les incidences que ça peut avoir sur un parcours et sur un cursus de pas de formation mais sur un protocole de d'affirmation de soi quand on est jeune et quand on veut devenir adulte. On a très très vite fait de devenir enfin d'être isolé au sein d'un groupe, au sein d'une école, au sein d'une classe. Et donc l'idée effectivement c'est de permettre aux enfants plutôt de coopérer à travers le sport plutôt que se diviser dans la cour d'école. C'est un peu ça le slogan aussi du projet.
Et c'est quelque chose que vous avez pu constater en tant qu'animateur sportif, des cas de harcèlement ?
Oui, je vais prendre cet exemple qui est assez simple. Effectivement, quand par exemple on fait des équipes pour que ça soit dans n'importe quelle activité, on a toujours les mêmes enfants qui sont tirés au sort au dernier, et on pense pas forcément aux conséquences psychologiques que ça peut avoir pour les jeunes. Donc effectivement, dans notre association, on le voit pas forcément au quotidien, mais on sait qu'au sein des écoles, c'est un fléau, c'est une lutte quotidienne, et on préfère, est-ce qu'on veut véritablement, c'est donner la possibilité aux enfants de reprendre confiance en soi grâce à la pratique d'une activité physique et sportive.
Et alors oui, on va en dire un peu plus sur ce défi, soyons solidaires face au harcèlement. Pourquoi lutter contre le harcèlement par le sport? C'est pas évident comme ça à première vue.
Non, mais en fait le sport a énormément de valeur. Je pense que déjà changer le regard des autres, parce qu'on peut avoir un enfant qui, d'un point de vue scolaire, peut être en difficulté. En termes d'apparence physique, peut avoir une apparence qui soit différente. Et du coup, un enfant qui peut se révéler grâce à la pratique d'une activité sportive pour éventuellement faciliter sa réintégration et pourquoi pas changer le regard de ses camarades. Donc c'est vrai qu'à première vue, on peut se dire, mais le sport, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Mais au final, la pratique d'une activité physique et sportive a tellement de vertus que je pense sincèrement qu'un jeune qui est isolé peut vraiment reprendre confiance en lui grâce à la pratique d'une activité.
Alors vous avez trouvé un parrain pour ce projet en la personne de Frédéric Cataneo, athlète paralympique. Alors qu'est-ce que ça représente pour vous ce parrainage ?
Frédéric, on le connaît, on l'avait vu l'année dernière, il avait participé à notre projet ensemble, Vivons nos Jeux. C'est un ami, clairement. C'est quelqu'un en qui j'ai une grande confiance et une, J'ai une grosse admiration aussi pour son parcours. Voilà, Frédéric, sur un podcast qu'on a enregistré il y a quelques semaines, me disait, voilà, c'est un projet qui me tient à cœur parce que le harcèlement, nous, en tant que personnes en situation de handicap, on est confrontés aussi à ça quotidiennement, de par les regards des gens qui parfois peuvent être un peu, interrogatifs, en fait, sur le handicap. Et c'est vrai que Frédéric, ce projet, ça lui tenait particulièrement à cœur. Il nous a reçus dans son club, là où il est licencié, sur les GS Koulen. Et donc, on a pu créer un petit podcast et tourner une petite vidéo. Il a même réalisé quelques échanges avec les jeunes de notre association dans le cadre du petit protocole « Une balle échangée, c'est un enfant respecté ».
Alors, l'année dernière, vous aviez justement organisé un événement sur la thématique du handicap. Je crois que vous l'avez mentionné, c'est Vivons nos Jeux, c'est ça ?
Ensemble, vivons nos Jeux, exactement.
Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet événement de l'année dernière ?
En fait, l'année dernière, on avait organisé un circuit auprès des scolaires, des établissements scolaires de la communauté de communes des Vallées de la Braye et de la Nille. Et on avait vu déjà plus de 2000 enfants au sein de leurs établissements. On leur avait parlé de handicap, de sport. L'objectif, c'était aussi de, pourquoi pas, changer le regard des enfants. C'est un sujet un peu tabou dans les familles, on n'en parle pas forcément du handicap et pourtant ça touche énormément de personnes dans le monde. Voilà, il y a énormément de formes de handicap, la surdité, ce sont des formes de handicap, il faut savoir aussi les aborder auprès des enfants. Et du coup, tous les jeunes qu'on a pu rencontrer ont été invités à venir rencontrer Marie-Amélie Le Fur, qui est la présidente du comité paralympique et sportif français, mais également maintenant présidente de l'ANS, l'Agence Nationale du Sport. Stéphane Houdet et Frédéric Cataneo, la paire de doubles françaises qui a participé aux Jeux Paralympiques. C'est des belles rencontres. On avait organisé ça sur la commune de Vibray, devant plus de 600 personnes qui étaient présentes au gymnase de Vibray en semaine, un mercredi après-midi. Et on a pu, durant cet après-midi-là, faire des échanges avec les enfants, leur permettre d'essayer des fauteuils pour voir que c'est pas si évident que ça. Et puis, il y avait le comité de la Sarthe Handisport qui était présent aussi pour proposer des activités tout au long de l'après-midi. Donc on n'est pas à notre premier coup d'essai sur ce nouveau projet, mais on avait déjà mis en place des projets éducatifs les autres années, comme vous le disiez.
Mais alors, ce nouveau projet, comment ça se passe concrètement ? Qui réalise ces 800 000 échanges de balles ?
Alors, on a commencé du coup lors d'un événement avant les vacances de Noël, le Noël de la Nibré Tennis. On a fait plus de 3500 échanges, on en a fait plus de 1500 avec Frédéric, donc on est à 5000. C'est un bon démarrage, mais il en reste quand même quelques-uns à faire. Et donc du coup, à partir de la rentrée, donc après les vacances de février, on va avoir une grande tournée en fait des écoles, avec plus de 60 classes qui sont déjà inscrites, pour pouvoir justement participer à ce challenge. Une balle échangée, c'est un enfant respecté. Donc en fait, c'est tout simple, les enfants vont venir faire des échanges avec moi et avec des bénévoles de notre association, et à chaque fois qu'ils auront fait 7-8 passes avec nous, on aura un compteur qu'on emmènera au sein des établissements scolaires, et les enfants iront taper de façon informatisée leurs points individuellement et pourront contribuer justement à ce projet-là. Donc on va faire peut-être un classement par école, un classement par classe, et on va forcément additionner tous les échanges qui vont être réalisés avec l'envie de réaliser un événement final sur l'une de nos communes de Saint-Calais, Bessé-sur-Bray ou Vibray au mois de mai prochain, pour essayer de finir avec notre parrain, notre marraine qui viendrait éventuellement taper les derniers échanges avec nous.
Du coup, l'idée, c'est de stimuler les jeunes sur un objectif commun, en fait.
Exactement. Comme je le disais tout à l'heure, on est dans une société qui est basée sur la division, on va dire. Il y a beaucoup de conflits. Et forcément, les enfants voient ce qui se passe aussi au sein de la société. Donc, l'idée, c'est de coopérer. Et de toute façon, cet objectif, il sera réussi par l'ensemble des enfants, ou alors il ne sera pas réussi du tout. Donc, si effectivement, ils veulent réussir, il va falloir coopérer les uns avec les autres. Et peu importe les différences qu'il peut y avoir au sein des classes, c'est soit le projet sera réussi avec l'ensemble des enfants, soit effectivement il ne sera pas réussi à ce moment-là.
Voilà. Alors comment il pourrait ne pas être réussi ? Il y a une deadline ?
Il y a une deadline, non, pas forcément. On va essayer quand même d'avancer, puisque là, comme je vous disais, il y a plus de 60 classes avant mi-mai. Donc je pense que ça va bien avancer en termes de participation et au niveau de l'augmentation des échanges. Et puis l'idée, effectivement, c'est d'essayer de clôturer avant la fin de l'année sportive, entre guillemets. C'est-à-dire, l'année sportive pour nous, c'est juillet 2025, avant les vacances d'été.
Ça va venir vite.
Ça va venir vite, mais on est confiant, on est optimiste, on est motivé. Et on va essayer de, De parler aussi de ce fléau-là. Et puis, avant la partie pratique, il y aura une petite partie théorique aussi dans les classes où on diffusera au sein des écoles un petit clip qu'on a tourné avec nos enfants pour justement montrer que le sport peut permettre à un enfant de reprendre confiance en lui grâce à une pratique régulière.
Et alors, par curiosité, on en est où sur le compteur là ?
On en est, alors il reste exactement 768 000 échanges à effectuer.
Ah oui, quand même.
Ah oui, quand même.
Votre engagement a été reconnu au niveau national puisque vous avez porté la flamme olympique et paralympique pendant les JO de 2024. C'était un souhait de votre part de pouvoir porter les deux flammes ?
Automatiquement, quand on est éducateur sportif et quand on est passionné de sport, c'est un rêve de porter les flammes olympiques. Après, vous m'auriez dit un jour, il y a 10 ans, 5 ans, que j'allais être porteur de la flamme, j'y aurais pas pensé une seule seconde. Après, effectivement, ça s'est fait en deux temps. La flamme olympique, c'est le ministère de la Jeunesse et Sport qui m'a contacté, la personne de Amélie Oudéa-Castéra, qui était ministre des Sports à l'époque, qui m'a contacté pour me remercier entre guillemets des actions qui étaient faites au sein de l'association et qui souhaitait que je porte cette flamme, donc je l'ai portée à Mayenne. Et puis la flamme paralympique, toujours dans le cadre des actions solidaires qui ont été mises en place l'an passé en France, c'est Marie-Amélie Le Fur qui, elle, de son côté, a fait les démarches pour me proposer d'être porteur de la flamme paralympique. Donc c'est vrai que ça a été deux événements majeurs, des souvenirs plein la tête, et j'oublie pas également aussi la participation au marathon des Jeux de Paris 2024,
effectivement, ouais.
Qui a été un événement incroyable.
Alors qu'est-ce que c'est ce marathon pour tous justement ?
Alors le marathon pour tous, c'est le même parcours en fait que le marathon des Jeux Olympiques, et donc il a lieu un jour après, et donc ce sont des passionnés de sport qui peuvent obtenir un dossard, mais également des participants qui étaient en lien avec un certain opérateur, voilà, que je sais pas si on peut en parler ou pas, mais il y a eu beaucoup de concours qui ont été faits avec un opérateur et on pouvait récupérer des dossards de cette façon-là. Et donc il y avait deux possibilités, soit faire le marathon pour tous avec les 42,195 km, soit les 10 km. Et donc j'étais amené à faire le 42 km et c'était un super moment.
Vous doutiez si vous pouviez dire le nom de la marque, c'est ça?
Alors, ouais.
J'avoue, je ne sais plus trop, j'ai le doute, il faudra que je redemande à mon rédacteur en chef. Donc pour l'instant, on va dire qu'on ne le cite pas.
Voilà.
Alors vous mettez un point d'honneur à faire rimer pratique sportive et inclusion. Comment est-ce que vous en êtes venu à ce chemin de pensée en fait?
C'est en fait, j'ai créé un projet il y a quelques années pendant la phase de confinement qui s'appelait Vivons nos rêves, qui m'a permis de créer des interviews, des podcasts avec des personnalités passionnées de sport. Ça a très très bien fonctionné, il y a eu plus d'une cinquantaine d'invités, dont l'artiste Vianney, qui est devenu parrain du club, Bob Sinclair, qu'est-ce que je pourrais citer, des joueurs de tennis bien sûr, Caroline Garcia, Alizé Cornet, enfin des joueurs majeurs, Hugo Gaston, des personnalités aussi telles que Nelson Montfort, et donc ça m'a donné l'envie en fait d'essayer de créer des projets pour permettre à nos jeunes de bénéficier d'avantages. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a reçu effectivement Yannick Noah sur notre territoire, on a reçu Cyril Hanouna également à l'époque quand il aimait le tennis et qu'il était moins focus sur le padel, qui est devenu sa nouvelle passion. Et puis voilà, j'ai fait la connaissance d'un monsieur qui s'appelle Stéphane Houdet et Michael Jérémiaz également, deux personnalités qui m'ont raconté leur parcours de vie. J'ai été particulièrement touché par tout ce qu'ils ont fait, par leur processus de reconstruction, par tous leurs combats au quotidien. Donc deux personnes qui font du tennis fauteuil, qui ont été médaillées paralympiques, pardon. Et donc je me suis dit, je vais essayer de créer quelque chose à mon échelle, en lien avec le sport et le handicap sur notre territoire. Ça a très bien pris, beaucoup plus que j'aurais pu l'imaginer. Il y a eu un engouement qui a été majeur. Et pour la petite anecdote, c'est vrai qu'après les Jeux olympiques et paralympiques, on parlait beaucoup de Léon Marchand, on parlait beaucoup de Teddy Riner, des équipes de France qui avaient gagné en sport co. Et au final, nous, au sein de l'association, on parlait des résultats de Fred Cataneo, de Stéphane Houdet, des personnalités qui étaient venues sur le territoire et qui les avaient marquées. Et en fait, voilà, c'est ça l'idée, c'est d'essayer de mettre en avant autant le sport paralympique que le que les sportifs valident. Et donc à la fin de ce projet-là, j'ai eu l'envie de, et je pense que je me suis senti peut-être un peu plus crédible d'aborder cette thématique du harcèlement que ça aurait pu l'être il y a 5 ans, où j'étais encore peut-être un peu plus fougueux. Mais là maintenant, l'idée, c'est vraiment de permettre aux jeunes d'avoir des notions, de savoir aussi que finalement être harceleur, harcelé, même témoin, ça peut être des éléments importants. Je pense qu'un enfant qui rigole d'un harceleur peut être lui aussi considéré plus ou moins comme harceleur, et ça fait mal autant à un enfant que celui qui peut lui faire du mal, surtout si c'est un ami proche. Donc voilà, ça s'est construit comme ça et j'espère que ça va continuer.
Et vous avez toujours des projets en tête, puisque le prochain événement, ce sera cet été, les 25 heures du tennis, avec un fil rouge Urban Tennis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet événement ?
Alors, les 25 heures du tennis, donc c'est un projet qui a été mis en place il y a 2 ans maintenant. L'idée, c'est de faire effectivement 25 heures de tennis. On me pose souvent la question, on me dit, mais vous jouez 25 heures au tennis ? Oui, on joue 25 heures au tennis. Donc, il y a des équipes qui s'inscrivent, des équipes mixtes, 4-5 personnes au maximum. Et pendant 25 heures, il y a des épreuves qui se déroulent, dont le beach tennis, par exemple, des tournois en simple, des tournois en double, du pickleball, du spikeball, donc plein d'épreuves en lien et en dérivé du tennis. Toutes les épreuves sont comptabilisées, les points sont cumulés durant les 25 heures, et à la fin, on a une équipe qui arrive en tête et qui remporte l'événement. Et c'est vrai que ça a très très bien marché. Il y a un engouement populaire qui est très important sur notre secteur durant ces 25 heures là, surtout durant la nuit. C'est un peu comme les 24 heures du Mans, où voilà, il y a la période où on arrive en fin de journée et la nuit arrive, et c'est là finalement que les épreuves sont les plus incroyables, parce qu'on fait du beach tennis avec des projecteurs sur un terrain de foot, et puis non, voilà, on a des gens qui mettent leur réveil à 2-3 heures du matin pour venir rejoindre une épreuve. Il y a quasiment très peu de temps mort, et oui, il faut qu'on tienne la route nous aussi, parce que voilà, on dort pas pendant 25 heures, il faut animer,
Oui, d'accord, vous tenez vraiment les 25 heures.
Ah oui, on tient les 25 heures. Moi, je tiens les 25 heures, oui, pour justement être au micro, appeler les équipes, appeler les joueurs.
Ah oui, je pensais que vous voulez relayer, moi.
Non, ben j'ai mon président d'association qui est avec moi. On passe une petite nuit blanche tous les deux. Ça nous permet de refaire le monde et puis de parler de nouveaux projets.
Et vous cherchez toujours des partenaires pour cet événement, je crois.
Oui, on cherche des partenaires. On vient de signer un partenariat avec le Crédit Mutuel de Saint-Calais. Voilà. On est très heureux de ce partenariat-là. Et puis, on est à la recherche automatiquement de nouveaux partenaires. On a les Charpentes Calaisiennes aussi sur Saint-Calais, avec la trésorière qui fait partie de l'association, et puis automatiquement on recherche aussi des nouveaux partenaires qui voudraient rejoindre un peu notre équipe et l'aventure.
Je vous remercie Jean-Charles Rioton, animateur sportif chez Anibray Tennis Intercommunal. On se retrouve dans quelques minutes avec Elias Blais, jeune champion de kayak qui a décidé d'arrêter là sa carrière à seulement 22 ans. Il nous expliquera pourquoi. Merci beaucoup Jean-Charles Rioton.
Merci beaucoup.
Et tout de suite, après une petite pause musicale, et on écoute El Mal, extrait de la BO du film Emilia Pérez de Jacques Audiard.
Miren al químico, químico, que lo nombraron ministro de algo. El químico era cebo, comando a matar a sus socios y familia, a chingar. ¿Y qué hicieron con esos cadáveres? Ácido. Miren al juez Santos, mírenlo, no le importa nada. Solo los niños, los narcos, los raptan a tiros, los llevan afuera de todos sus pueblos natales. A cambio de eso, Santos reduce los juicios a falta de pruebas. Habla, esta gente habla, pero ahora lo va.
Me sacan ventaja, todo el mundo los conoce, a mí nadie. O solo un poco, soy Emilia Pérez, una mujer mexicana, una mujer como las demás.
Miren al secretario de Educación, dizque pública especialista en las empresas fantasmas. Hoy sus contratos sí, sí son reales, pero las disque escuelas no se construyen ahora. Cuéntanos tuyo, ¿de dónde sacaste tu jet, tu alberga, tu hotel? Miren al gobernador, ¿quién votó por él? La gente o el cártel, ¿a qué compró? Ay, sí, uno a uno los votos de los campesinos. Paga, págale al cártel bombón, ya están sentados en tu pinche trono. Habla, esta gente habla, pero ahora lo van a pagar. Habla, esta gente habla.
una mujer excepcional, Anita Mora Castro. Ella es la inteligencia andando, la inteligencia andando.
Miren al cojo, no eres cojo de nacimiento. En tu próximo puto retraso de pago acabarás en la silla de ruedas, lo sabe bien el que perdió su mano. Sé muy puntual si eres corrupto. Miren al querido Gabriel Mendoza, ah, con su nueva mujer, su nueva esposa. Muy joven, muy rubia, rubia.
Habla, esta gente habla, pero ahora lo van a pagar, a pagar, a pagar. Habla, esta gente habla, pero ahora lo van a pagar, lo van a pagar. Habla, esta gente.
Perder a un ser amado es una tragedia, pero ver sus restos es una condena.
Radio Alpa, l'alternative.
De retour dans Sport en Sarthe et on passe à notre deuxième sujet du jour. Et nous sommes avec le kayakiste Elias Blay. Il y a des sportifs qui voudraient ne jamais s'arrêter, à l'image de Rafael Nadal qui n'a pris sa retraite qu'à l'approche de ses 40 ans. Et d'autres préfèrent s'arrêter beaucoup plus tôt, comme c'est le cas d'Elias Blay, 22 ans, kayakiste professionnel qui a décidé de mettre un terme à sa carrière après tout de même 9 années à haut niveau. Alors, quelles sont les raisons qui ont poussé le jeune Alençonnais à prendre cette décision et qu'a-t-il tiré de ces 9 années d'efforts intenses ? Bonjour Elias Blay.
Bonjour Charlie, merci pour l'invitation.
Alors, pour rappel, le kayak, c'est donc ce bateau longiforme dans lequel on est assis à pagayer, dans une position qui, par ailleurs, a l'air d'être sacrément inconfortable. Peut-être on aura l'occasion d'y revenir. Mais déjà, est-ce qu'on peut commencer par éclairer un peu en quoi consiste le kayak professionnel ?
Tout simplement, c'est un sport comme les autres. Il s'agit de s'entraîner de façon quotidienne pour performer à haut niveau. C'est le loisir en faisant un petit peu plus.
Alors, vous avez fait des courses en solo et des courses en équipe. Est-ce que vous avez une préférence ?
Alors forcément, on est entraîné pour faire des courses en solo la plupart du temps. Après, on fait de l'équipe aussi un petit peu. C'est le côté un petit peu sympa du haut niveau. On partage des choses avec des amis, on partage des émotions. Donc, je préfère le solo, mais j'adore aussi l'équipe.
Alors, quelles sont les difficultés en fait, du kayak ? On parlait de la position tout à l'heure, mais on peut aussi penser à l'équilibre, au contrôle du bateau. Quelles sont les compétences que vous avez développées avec ce sport ?
Alors, il y a une notion d'équilibre, oui, ça c'est important. La position, non, n'est pas si inconfortable que ça peut paraître. Ouais, c'est plutôt correct, on est quand même bien assis, bien installé. Beaucoup de gainage quand même, de l'explosivité, de la puissance, de la force. Et puis, une capacité aussi à réagir en très peu de temps, en un quart de seconde, puisque c'est... dans un milieu instable, hein, donc la rivière, on a cette capacité à pouvoir changer notre trajectoire en très peu de temps.
Et parce que j'imagine que vous évoluez pas sur des eaux très calmes, c'est des eaux plutôt agitées, des rapides.
On est en eau vive, oui, c'est ça.
Ça vous est arrivé de vous prendre le décor par moment ?
Tout à fait, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Championnat du monde 2023, première manche, je me suis pris le décor. Ça arrive même beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, ça fait partie... de la routine, presque.
Et alors, comment est-ce qu'on progresse en kayak ? Est-ce qu'on prend des parcours de plus en plus difficiles ?
Oui, on peut faire ça aussi. C'est important pour travailler la technique sur les zones plus délicates. Et on fait aussi énormément de techniques sur les zones beaucoup plus calmes de la rivière plate ou du lac.
Alors, dans l'Orne Hebdo, vous confiez que depuis 4 ans, vous n'avez jamais aimé vous entraîner. Je dois dire que c'est la deuxième fois, en fait, que je rencontre un athlète de haut niveau qui révèle n'avoir jamais vraiment aimé ça. Et ça m'interpelle. Pourquoi continuer, en fait ?
Alors, après, il y a une différence entre ne pas aimer s'entraîner et ne pas aimer naviguer. J'avais quand même du plaisir à monter sur l'eau. Après, moi, ce que j'aimais moins, c'était faire des entraînements difficiles. Malheureusement, quand on fait du sport de haut niveau, c'est des choses qui sont quotidiennes. Mais la performance, des fois, passe au-delà de ça. Et aussi, les relations qu'on peut créer dans ce milieu font qu'on a envie de rester. On rencontre des gens qui sont géniaux. On partage des moments qui sont quand même intenses. Et je pense qu'on est conscient aussi. En tout cas, moi, je suis conscient que j'ai vécu des choses qui ne sont pas vivables par tout le monde.
Et parce que vous évoquiez la difficulté de ces entraînements. On sait à quel point le sport de haut niveau est exigeant. Alors comment est-ce que vous trouviez la motivation si vous n'aimiez pas plus que ça ce que vous faites ? C'était ces rencontres qui vous permettaient de tenir ?
Ça, c'est un point très important, oui, forcément. Voilà, les personnes que j'ai rencontrées ont fait que j'ai passé des périodes vraiment géniales et que ça m'a motivé aussi à aller à l'entraînement. Et d'autre part, j'aime énormément progresser et apprendre. J'aime voir que je progresse, que je vais de plus en plus vite, que je me développe techniquement, que je deviens de plus en plus persévérant aussi dans l'entraînement. Et donc j'aime me dépasser et c'est quelque chose qui m'a motivé aussi quand même.
Et vous deviez vous mettre une sacrée pression sur les épaules, on imagine quand même.
Il y a une pression constante, oui. Après, on s'y habitue forcément. On travaille aussi pour pouvoir la digérer plus facilement.
Alors, vous avez subi une blessure importante au cours de votre carrière. Est-ce que c'est rentré en compte dans votre décision ou bien pour vous, ça faisait partie du jeu ?
On sait qu'on est quand même beaucoup plus sensible à ce genre de blessure au cours d'une carrière quand on commence très jeune. Forcément, le corps ne s'habitue pas de la même manière. On fait toujours des erreurs aussi dans la préparation qui fait que ça nous fragilise. Les épaules chez le kayakiste sont un élément qui sont très, très, très souvent une cause de blessure. Je savais que j'y passerais peut-être un jour. À vrai dire, ça a été presque une porte de sortie à ce moment-là, parce que c'était une période où j'avais vraiment, vraiment, vraiment l'envie de faire une pause. J'en avais marre de m'entraîner, donc ça m'a presque fait du bien, j'ai envie de dire mentalement en tout cas. Et je pensais que j'allais pas retourner d'ailleurs sur l'eau après cet événement.
Et alors pourquoi vous êtes retourné finalement ?
Et bah par défi, tout simplement. En fait, j'ai repris contact avec quelques personnes qui étaient encore dans le milieu, des amis de l'époque, qui m'ont remotivé. J'ai refait une compète, puis deux, puis trois, et puis je me suis dit, bon, allez. Finalement, en fait, cette année et demie où j'ai arrêté m'a peut-être pas mis au fond du trou. J'ai encore des capacités, donc je peux encore les exploiter.
Ouais, donc au final, ce n'est que très récemment que vous avez décidé d'arrêter complètement le kayak de haut niveau. Mais c'était quoi l'élément déclencheur alors qui a suscité cette décision ?
Il n'y a pas vraiment un élément. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui corrèlent. J'ai aussi beaucoup plus de projets personnels qui me prennent du temps. Où le sport de haut niveau, ça vous accapare complètement. J'ai des projets professionnels aussi où voilà, je sais que je pourrais pas mener tous ces points-là en même temps, donc il faut faire des choix. Je pense que j'ai pas forcément fait le tour du sport de haut niveau, mais en tout cas, tout ce que j'ai exploré me suffit.
Vous avez commencé à construire une vie ailleurs que dans votre carrière de haut niveau, en fait.
Complètement. Je l'ai toujours fait. J'ai jamais été à 100% dans le haut niveau. J'ai toujours eu des amis extérieurs, j'ai toujours eu une vie sociale. Ça a été très important pour moi d'avoir cet équilibre. Et aujourd'hui, bah, finalement, l'équilibre, il se trouve plus dans ce côté-là que dans le sport de haut niveau.
Une carrière courte donc, mais qui s'est tout de même soldée par deux titres, vice-champion du monde junior et champion d'Europe U23 par équipe. Vous en êtes fier tout de même, j'imagine.
Oui, bien sûr, bah, j'y repense régulièrement. C'est vrai que quand je vois encore les médailles qui sont chez moi, ça me rappelle et ça me remémore pas mal de souvenirs. C'est très intéressant et j'ai une grande fierté de ces accomplissements.
Et alors, quel bilan est-ce que vous tirez finalement de ces années dans le sport pro ? Est-ce que vous en tirez quelque chose par rapport à votre rapport au sport, par exemple ?
Alors c'est un peu délicat, aujourd'hui j'aime encore faire du sport, il y a une notion aussi, une volonté en tout cas d'avoir un physique et de physiquement toujours être préparé et toujours en bonne forme, mais je pense que j'aurais du mal aujourd'hui à me remettre complètement de façon intensive dans une nouvelle discipline parce que j'en ai trop fait.
Mais cependant vous avez appris des qualités que vous comptez mettre à profit dans d'autres projets peut-être à présent, la rigueur, le don de soi, etc. Ça c'est des acquis que vous garderez toute votre vie ?
Je pense que c'est très intéressant, ce genre de valeurs, quand elles font partie de votre mode de vie, il faut les garder, et oui, donc ça me servira forcément, et en tout cas, j'essaie chaque jour de me servir de ce que j'ai pu apprendre pour le transposer dans d'autres domaines.
Alors du coup, vous n'abandonnez pas complètement le kayak pour autant, c'est ce que vous nous expliquez.
Je vais continuer quand même à monter sur l'eau une fois de temps en temps.
Vous êtes notamment directeur d'une structure qui propose de faire du kayak.
Oui, notamment, ouais, une sorte de base de loisirs dans les Alpes-Mancelles, donc je suis encore un petit peu lié au milieu.
Alors du coup, je me permets de vous proposer quelques sports en kayak, le waveski ou surf en kayak, le kayak polo ou bien un peu de détente avec le canoë-kayak bivouac. Vous avez déjà essayé ces différentes disciplines ?
Ouais, alors le waveski, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, c'est très très fun, c'est un mélange entre du surf et du kayak. Ça, j'aime beaucoup, le kayak polo, j'en ai fait un petit peu aussi. Un sport de contact et un sport d'équipe, c'est la seule discipline en équipe dans le kayak, donc c'est plutôt rigolo. Et après le bivouac, c'est quelque chose que j'apprécie aussi, et ce qui est très bien en plus, c'est que j'ai pu faire avec des amis qui étaient non sportifs de haut niveau. C'est vraiment adapté pour tous les pratiquants, et c'est plutôt génial. Ouais.
Oui, donc pas de découverte en fait, vous avez déjà essayé tout ça quoi.
Alors, au bout d'un moment, quand ça fait maintenant 12 ans, je crois que j'ai pris ma première licence, c'est vrai que j'ai eu le temps de faire un petit peu le tour des disciplines.
Je vous remercie Elias Blay et on vous souhaite tout le bonheur pour la suite sur l'eau comme sur cette bonne vieille terre. Merci beaucoup.
Merci.
Radio Alpa, l'alternative.
C'est la fin de Sport en Sarthe. Merci d'avoir été à notre écoute. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur radioalpa.com. On se retrouve pour un nouvel épisode vendredi 14 février. Et d'ici là, rendez-vous lundi pour une nouvelle édition de C'est d'Actu sur Radio Alpa, bien évidemment.
Le Conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe.